Ce livre qui vient de paraître souhaite établir une nomenclature de noms scientifiques français. Vous tenez à la distinction entre noms scientifiques français et noms vernaculaires. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la différence ?
Alors, finalement, on parle comme ça des noms vernaculaires pour des noms qui sont dans les différentes langues. Mais je tiens, disons, à faire la distinction, hein, et à rappeler qu'il y a eu une tradition, et puis même une tradition très forte, et il existe des noms scientifiques dans les différentes langues, mais peut-être encore plus, j'expliquerai pourquoi, dans la langue française. Alors, ces noms, ils peuvent venir de noms vernaculaires. Je donne l'exemple, par exemple, du crapaud commun. C'est un nom d'origine vernaculaire, de la couleuvre lisse. Bon. Mais dans leur description scientifique, les scientifiques français de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, quand ils décrivaient leurs espèces et leurs nouvelles espèces, ils les décrivaient avec un nom nouveau, un nom scientifique en français. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Buffon dans son Histoire des oiseaux, car Buffon n'admettait pas la classification binominale de Linné, et il y a eu de grandes disputes entre Linné et Buffon. Petit à petit, Buffon un peu l'a admis, ce qui fait que les scientifiques français décrivaient en mettant seulement des noms français. Par exemple, je donne un autre exemple, dans la fameuse description de l'Égypte, hein, donc de tous les animaux qui ont été ramenés par l'expédition de Bonaparte en Égypte, eh bien, les premières descriptions, par exemple, de Geoffroy Saint-Hilaire, hein, par exemple, le crocodile du Nil, la tortue molle du Nil, et il n'y avait seulement que des noms français. Et nous les considérons comme des noms scientifiques français. Hein. Alors, petit à petit, s'est imposé à la communauté scientifique internationale, plutôt dans les autres pays que dans les pays français, hein, s'est imposé la nomenclature binominale latine, hein, créée par Linné. Mais les scientifiques français ont continué à mettre dans leur traité de zoologie, or ça a été la grande période de la zoologie et de la zoologie française, mais la grande période de la zoologie a commencé au XIXe siècle au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Hein. C'est l'époque de Geoffroy Saint-Hilaire, de Cuvier, de Brongniart, etc. Et ils mettaient toujours les deux noms. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu plusieurs traités d'herpétologie, hein, donc sur les reptiles et les amphibiens, hein, de Brantôme, qui a commencé dans l'encyclopédie méthodique, hein, et puis la Cépède. Alors, eux, parfois même, les noms latins n'étaient pas bien mis ou mis dans des tableaux et non pas forcément dans le texte. Voyez. Dodin, lui, il a mis des noms latins forme binominale et encore ils sont là au bas de la page, hein, suivis d'une phrase de diagnose en latin. Hein. Et le nom français était en titre de ces descriptions d'espèces. Cuvier mettait en titre des noms français et des noms latins. Il ne suivait pas très bien, d'ailleurs, les règles de Linné. Au moins dans son, par exemple, je parle du règne animal, hein, qui a eu un retentissement énorme, puisqu'il a été traduit aussitôt dans toutes les langues européennes. Et ensuite, bien sûr, nous avons eu la chance, mais ça a été aussi pour d'autres groupes, hein, d'avoir, disons, le premier traité d'herpétologie générale, hein, par Duméry et Buberon, et qui ont commencé de 1836 à 1854, hein, plus de 10 volumes. Et là, il mettait, et surtout Duméry était très nomenclaturiste, très, hein, très systématicien, en même temps un anatomiste. Hein. Et lui, il met en, sous forme binominale le nom français et le nom latin. À égalité, d'ailleurs, même le nom français, binominal, pour chaque espèce, est écrit avant le nom latin. Hein, et là, en titre de description d'espèce. Hein. Alors lui, il a décrit énormément de nouvelles espèces, de nouveaux genres, etc. Hein, et toujours, il y a l'équivalent. Parfois, même, c'est la traduction littérale du nom latin. Hein, hein. Donc, c'est parfois des noms complètement savants qu'il a créés, ou des noms vernaculaires qui reprend, ou des noms créés par des prédécesseurs comme Dodin, Lacépède, ou même Daubenton, hein, ou Latreille, parce que Latreille aussi a écrit un petit traité vers 1802 d'herpétologie. Alors, vous voyez, c'était très net. Et les naturalistes ont employé ces noms continuellement, hein. Et donc, pas seulement comme ça d'une façon de langage courant, vernaculaire, mais aussi d'une façon scientifique. Et à vrai dire, même dans presque tous les groupes zoologiques, ça s'est fait pareil. Parce que c'est à la même époque qu'il y a la fameuse, quand même, traité d'histoire naturelle des poissons de Cuvier et Valenciennes, en invertébrés, enfin, etc. Et donc... ce mouvement a été très important et c'est peut-être après que ces noms scientifiques, étant courants, sont devenus des noms vernaculaires, hein, ou presque, ont été traités après. Alors, d'ailleurs, dans les publications, parfois, surtout quand c'est mis à la mode la biologie et moins la systématique, on ne citait que le nom français. On disait j'ai fait une dissection ou j'ai travaillé sur le muscle gastrocnémien de la grenouille verte, hein, ou même de la grenouille tout court. Bon. Voilà. Alors, donc, c'est cette tradition que je reprends, hein, et que j'explique dans. Que j'explique dans mon livre, que je reprends, et dans le sens que il dit qu'on ne peut pas employer n'importe quel nom, hein, et il faut remonter, ces noms des animaux ont une histoire, et il faut remonter à leur histoire. Alors, j'applique pour les noms scientifiques français à peu près les mêmes règles que disons, pour les noms latins. Il faut garder l'antériorité des noms employés par nos aînés, quoi. Et puis, en même temps, garder la forme binominale, hein, ou trinominale pour une sous-espèce, bon, avec des règles moins rigides que le code de nomenclature, mais disons, garder une stabilité, et ce qui fait que parfois, quand il y a parfois des noms, même de Duméry, c'est un autre nom, il y a un usage qui a prévalu parmi les auteurs francophones. Donc j'ai consulté les auteurs du 19e siècle, suisses, belges ou d'autres, quoi. Voilà, hein, voilà un peu le panorama. Alors, c'est d'autant plus important maintenant que les noms dans les langues, hein, dans les langues européennes, dans les langues, reprennent de l'importance parce qu'ils deviennent, ils sont mentionnés, hein, dans des listes administratives. dans les papiers administratifs, dans des listes d'espèces protégées publiées au journal officiel, ou même publiées dans des conventions où le français, l'anglais et l'espagnol sont des langues officielles. Hein. Donc, il ne faut pas, quand on se met à traduire, il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, j'ai été en partie, d'ailleurs, poussé à ça, parce que très souvent, nous, au muséum, et c'est tout à leur honneur, des illustrateurs, des traducteurs, hein, de livres, nous téléphonent pour nous dire « voilà le mot anglais, quel est le nom de cette espèce ?» Alors, on voit des trucs complètement farfelus, hein, à ce que des gens se mettent à traduire littéralement de l'anglais, et par exemple, en français, rainette arboricole, c'est une tautologie, c'est une idiotie. Une rainette est par définition arboricole, en français. D'ailleurs, c'est pour ça que la Hyla arborea, qui était d'ailleurs décrite au départ par Linné comme une rana arborea, donc une grenouille arboricole, la Hyla arborea, il y a son nom français de rainette verte, qui vient d'ailleurs de l'ancien nom, tombé en synonymie de Hyla viridis. Hein. Mais par exemple, c'est une idiotie en français de dire grenouille arboricole. Une grenouille, ça vit au bord de l'eau. Hein. C'est amphibie, c'est au bord de l'eau ou dans l'eau. Hein. Grenouille arboricole. Mais comme frog en anglais veut un peu tout dire, d'ailleurs beaucoup plus en américain qu'en anglais. Hein. Parce qu'en américain, ils n'ont pas le terme toad pour les crapauds. Hein. Et tree frog d'ailleurs pour la. Mais les Américains emploient frog un peu pour tous les anours, quoi. Tous les batraciens à pattes, quoi. Alors grenouille arboricole, c'est une idiotie en français. Voilà tout le contexte. Hein. C'est ça pourquoi j'ai insisté dans le livre. Donc c'est pas seulement l'étymologie, c'est pas seulement. C'est pas seulement une liste de noms, et je regrette, je sais pas, je suis pas assez au courant, si les collègues ornithologistes, ou il y a quand même des listes de noms qui sont admis, mais je sais pas s'ils ont fait la même analyse historique, hein. Et le travail est à faire sur les mammifères.
Pour les mêmes raisons d'ailleurs.
Pour les mêmes raisons, hein. Et notamment, par exemple, on traduit en français pour le cabiaille, je crois que c'est l'hydrochérus, le plus gros rongeur du monde, il y en a dans le jardin des plantes. Hein. Or, le nom français et qui est dans les traités, sans doute sur les mammifères ou dans les arctiques, c'est cabiaille, parce que c'est le nom guyanais. Hein, c'est le nom d'ailleurs de la langue des Kalina, des Galibis indiennes, qui est passé dans le français, hein, au XVIIIe ou XIXe siècle, hein, et qui, disons, est le nom français, tandis que Capybara est un nom espagnol.
On voit toute l'importance de l'histoire de ces disciplines.
Absolument.
Pour comprendre toute une série de
oui,
termes employés.
Absolument. Hein. Oui, oui, parce que, bon, parfois il y a, par exemple, rainette verte, bon, c'était Hyla viridis dans du Méridibibon. Alors, après, nous, il y a les règles de nomenclature scientifique, il y a la règle de priorité dans une description, et donc, disons, en latin et en science, c'est l'arborea de Linné qui prévaut. Donc, on le garde en latin, mais en français, on a gardé ce nom-là, c'est un synonyme, on a gardé ce nom-là qui a toujours été utilisé, hein, puis qui est plus vrai, quoi. Alors, Il y a parfois comme ça des ajustements, des réajustements. Hein. Mais ça, on l'arrange et puis on le... Mais oui, il faut refaire l'histoire de ces noms.